Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.
Le lieutenant-colonel parlait lentement et buvait lentement. Il buvait par petites gorgées, comme s'il dégustait une tasse de café. Je me défends en buvant, autrement je serais déjà à l'asile. Contre les scélératesses du monde, un homme honnête se défend en buvant. Voilà plus d'un an que je fais la guerre, un peu sur tous les fronts, et je n'ai jamais vu un seul Autrichien en face. Et pourtant nous nous tuons à qui mieux mieux tous les jours. Se tuer sans se connaître, sans même se voir, c'est horrible. C'est pour cela que nous nous saoulons, tous, d'un côté comme de l'autre. Et vous, avez-vous déjà tué quelqu'un, personnellement, de vos mains? J'espère que non. Moi, personne. D'ailleurs, je n'ai vu personne. Eh bien, si tous, d'un commun accord, loyalement, nous cessions de boire, la guerre cesserait peut-être. Mais si les autres boivent, moi aussi je bois. Voyez-vous, j'ai une longue expérience. Ce n'est pas l'artillerie qui nous soutient dans l'infanterie. C'est même tout le contraire. Notre artillerie nous démolit souvent en nous tirant dessus. L'artillerie autrichienne aussi tire sur son infanterie. Naturellement, la technique est la même. Supprimer l'artillerie de part et d'autre, la guerre continuera. Mais essayez un peu de supprimer le vin et l'alcool. Essayez un peu. Essayez. J'ai déjà essayé. Acte individuel insignifiant et déplorable. Mais faites de cet exemple un ordre, une norme générale. Aucun de nous ne bougera plus. L'âme du combattant de cette guerre, c'est l'alcool. Le moteur premier, c'est l'alcool. C'est pour cela que les soldats, dans leur infinie sagesse, l'ont appelé le carburant.
Il tenente colonnello parlava lentamente e beveva lentamente. Beveva a sorsi, come si scentellina una tazza di caffè. Io mi difendo bevendo, altrimenti sarei già al manicomio. Contro le scelleratezze del mondo, un uomo onesto si difende bevendo. È da oltre un anno che io faccio la guerra un po' su tutti i fronti e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda tutti i giorni, senza conoscersi, senza neppure vedersi. È orribile. È per questo che ci ubriachiamo tutti da una parte e dall'altra. Ha mai ucciso nessuno lei? Lei personalmente con le sue mani? Io spero di no. Io nessuno. Già, non ho visto nessuno. Eppure, se tutti, di comune accordo, lealmente, cessassimo di bere, forse la guerra finirebbe. Ma se bevono gli altri, bevo anch'io. Veda, io ho una lunga esperienza. Non è l'artiglieria che ci tiene in piedi, noi di fanteria. Anzi, il contrario. La nostra artiglieria ci mette spesso a terra, tirandoci addosso. Anche l'artiglieria austriaca tira sovente sulla propria fanteria. Naturalmente, la storia è la stessa. Abolisca l'artiglieria da ambe le parti. La guerra continua. Ma provi ad abolire il vino e i liquori. Provi un po', sì, provi. Io ho già provato. Insignificante e deplorevole fatto personale. Ma estenda l'esempio come ordine, come norma generale. Nessuno di noi si muoverà più. L'anima del combattente di questa guerra è l'alcol. Il primo motore è l'alcol. Perciò i soldati, nella loro infinita sapienza, lo chiamano benzina.
Et donc je vous lis l'adaptation que nous avons fait en compactant un petit peu ce passage avec la première scène de la rencontre avec le lieutenant-colonel Abbat. Nous étions arrivés sur le plateau d'Assiago le 5 juin. Le chef du bataillon m'envoya à Stockared pour recueillir des informations sur l'ennemi. Je tombais sur le colonel Abbat. Assis à une table, une bouteille de cognac à la main, il m'accueillit très aimablement et m'offrit un petit verre de cognac. Merci beaucoup, je ne bois pas d'alcool.
« Vous ne buvez pas d'alcool ?
Il tira un calepin de sa poche et écrivit « Rencontrer lieutenant qui ne boit pas d'alcool, 5 juin 1916 ». Je lui posai mes questions sur les positions ennemies. « Vous ne buvez pas ?»« Non, pourquoi ?»« Étrange, très étrange. Et du vin, vous en buvez ?» Un peu à table, comme ça, il m'accompagna à l'observatoire de Stoccavedo en gardant sa bouteille à la main. En face, Montezebio. À droite, Montefiore, le plus haut, 2000 mètres. Entre ces sommets et nous, la cuvette d'Asiago. Et les Autrichiens, ils sont où ?
Ah, je ne sais pas. Personne ne le sait.
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils sont partout. Voilà plus d'un an que se fait la guerre, et je n'ai jamais vu un seul Autrichien en face. On se tue tous les jours sans même se voir. C'est horrible. C'est pour ça que nous nous saoulons tous, d'un côté comme de l'autre. Essayez de supprimer le vin et l'alcool. La guerre cessera peut-être. Essayez. J'ai déjà essayé. Acte individuel, insignifiant et déplorable, mais faites de ce cas particulier une norme générale. Aucun de nous ne bougera plus. L'âme du combattant de cette guerre, c'est l'alcool. Le moteur premier, c'est l'alcool. C'est pour cela que les soldats, dans leur infinie sagesse, l'ont appelé le carburant. C'est quoi ce livre ? Le règlement sur le service en temps de guerre ? Moi, le service en temps de guerre, vous êtes fou. Bacchus en Toscane. Non, mais vous approchez. L'art de préparer soi-même ses liqueurs. Ah, difficile, difficile. Mais croyez-moi, il vaut bien l'art de la guerre.
Ninanan, ia son, che se dormi non vedrai tante infame, tanti guai che succedono nel mondo tra le spade e li fucili degli popoli civili tra la gente che se scanna per un matto che comanda e se scanna e che s'ammazza a vantaggio de una razza approfitto de una fede per un Dio che non se vede ma che serve da riparo al sovrano macellaro che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse fa la ninna cocco bello finché dura sto macello fa la ninna che domani rivedremo gli sovrani e se scambiano la stima buoni amici come prima son cugini e tra parenti non se fanno complimenti torneranno più cordiali li rapporti personali e riuniti tra de loro senza l'ombra de un rimorso ce faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro e quel popolo coglione risparmiato dal cannone.
Au fil des arts sur Color FM, nous venons d'entendre la Nina Nana de la Guerra, une berceuse pacifiste de 1914 que les soldats chantaient dans les tranchées. Elle a été écrite par Carlo Alberto Salustri, plus connu sous le nom de Trilussa.
Emmanuel Genevois, oui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'italien.
Oui.
Vous êtes professeur à la faculté Paris 3, professeur de culture italienne. Et vous avez traduit Un anno sull'altipiano. Nanou Proche, vous êtes metteur en scène, vous dirigez la compagnie Ma voisine s'appelle Cassandre depuis 1995. Je me tourne vers vous, Emmanuel Genevois, pour savoir si lorsque je dis que traduction, c'est organiser, imaginer, travailler le passage d'une langue à une autre, est-ce que je dis la totalité du travail que vous effectuez ?
C'est l'objectif. Est-ce que nous y parvenons ? Je dois dire tout de suite que je suis co-traductrice. Plus exactement, une de mes étudiantes m'a aidée à traduire, effectivement à finir la traduction de ce livre. Je voudrais le dire, Josette Monfort. Pour ce qui est du livre de Lousseau, je dois dire que la traduction, et je vais peut-être vous décevoir un peu, n'a pas été un travail excessivement difficile. Car la langue de Lousseau est une langue très claire. L'écrivain Tabouki dit « Sa langue est cristalline, pure, aiguë, comme celle d'un couteau. » Pourquoi ? C'est parce que Lousseau est avant tout un homme de combat. Et ce livre qui a été écrit pendant son exil en France, de même qu'un autre livre, La Marche sur Rome, a été également écrit pendant son exil en France, ce sont des livres de combat pour réveiller les consciences en 1938, au moment où est sorti ce livre contre le fascisme, de même que Marche sur Rome en 1933. Donc, si vous voulez, c'est une langue très acérée. C'est un homme cultivé, c'est un homme qui a fait l'université, c'est un homme qui est devenu avocat, qui est devenu député. C'est un homme aussi qui est capable de transcrire la voix de ses personnages. Et nous pourrons dire un mot du langage des soldats qu'il écoute. Il est un de ceux qui fait monter, dans des dialogues extrêmement intéressants d'ailleurs, la voix de ces soldats de la brigade sarde qu'il avait sous ses ordres, la brigade Sassari. Cela dit, je ne veux pas minimiser tout de même notre travail, il y a eu tout de même des difficultés bien entendu, mais nous avons été aidés, portés par ce souci qu'il a eu de transmettre incontestablement un témoignage et quelque chose de très fort à la veille de la Seconde Guerre mondiale, puisque le livre est paru en 1938. Emilio Lussu est né en 1890 en Sardaigne. Il est mort en 1975. Il a eu une vie très longue. Il a survécu d'ailleurs à 4 ans de guerre. Ce qu'il a façonné au départ, c'est justement sa composante sarde. Il raconte dans un livre qui vient d'être traduit, Le sanglier du diable, comment il a, très jeune, il a eu une activité de chasseur. Ça a été pour lui une école de la vie. C'est ce qu'il raconte. Une école de la vie. Pourquoi ? Parce qu'il fallait respecter des règles, il fallait respecter les chefs de chasse, il fallait aussi développer des aptitudes physiques. Donc une école de la vie en Sardaigne. Cette brigade était entièrement faite de pasteurs et de bergers sardes. Ensuite, il a, en 1926, été attaqué et il a survécu à 4 ans de guerre. Il l'a raconté donc dans Un anno sull'altipiano, qui retrace un an simplement de guerre, entre juin 1916 et juin 1917. Ensuite, il est revenu dans son île natale, et c'est là qu'il a été attaqué par un fasciste, et qu'il l'a tué en état de légitime défense, mais il a été envoyé tout de même dans l'île prison de Lipari, en 1926, d'où il s'est échappé, du reste, c'est de l'Alexandre Dumas d'ailleurs, et ce qui est raconté dans un livre qui vient justement d'être traduit, qui s'appelle La Chaîne. Par la suite, c'était un homme politique, sénateur à vie, et pour finir, cette chose que je trouve extraordinaire, c'est qu'en 1992, il était mort depuis longtemps, lors d'une élection présidentielle, eh bien, son nom est sorti sur un bulletin, comme si on voulait toujours rappeler la figure vraiment essentielle, très forte, qu'il a été pour la République italienne.
Loin de moi l'idée de vous prendre en défaut, mais la première page du bouquin italien, en italien, et la première page du bouquin en français, on est obligé de voir que la traductrice, il fait des choix. Alors, Stanka, pourquoi Stanka en français ? Vous avez fait un choix.
Alors, il faut, une fois la tranchée prise, il fallait conquérir la suivante. Trieste était toujours là, face au golfe, à la même distance. Stanka, dit l'italien. Pourquoi Stanka ? Stanka, c'est-à-dire fatigué, lasse. Lasse, ça ne suffisait pas. Alors, il fallait comprendre ce que ça signifiait. Est-ce que là, ça signifiait qu'elle était fatiguée parce qu'il y avait des bagarres, d'entendre canons, fatiguée par la guerre ? Non, je pense que la véritable, effectivement, explication vient de l'histoire. C'est qu'en fait, une des raisons de l'entrée en guerre de l'Italie, qui, vous savez, a attendu un an, avant d'entrer en guerre. Après avoir hésité entre Berlin et Paris, bon, finalement, elle s'est quand même unie à la France. Et un des motifs, si vous voulez, de l'intervention, c'était tout de même de reprendre aux Autrichiens terre irredente, non rachetée. C'est-à-dire de relier la guerre aux guerres du Risorgimento, c'est-à-dire des guerres qui avaient élaboré l'unité italienne. Il manquait Trieste, il manquait Trente encore. Et c'était une des raisons pour lesquelles les démocrates, pas les nationalistes italiens, ont décidé d'entrer en guerre, après avoir hésité tout de même. Et c'était ce qu'on appelait des interventionnistes démocrates, ce dont faisait partie Lussu. Et il m'a semblé que de dire lasse d'attendre d'être italienne.
Nanouk Broch, est-ce que vous acceptez le postulat selon lequel votre travail d'adaptation théâtrale à partir de ce récit, c'est un peu un travail de traduction?
Alors ça dépend à quel endroit on se situe. C'est-à-dire que ça s'est fait en deux temps. Il y a eu l'écriture de l'adaptation qui s'est faite par un aller-retour entre le plateau et l'écriture que j'amenais. Et il y a aussi ensuite la mise en scène et le jeu. Alors après, moi ce que j'aime bien, qui est le terme de transport. J'aime bien ce terme parce qu'on le retrouve dans métaphore. C'est-à-dire quand on transporte le sens d'un mot dans un autre mot. Et je trouve que effectivement, on peut dire transport ou traduction. Mais je pense que, si vous voulez, il y a aussi quand même dans la fabrication théâtrale, il y a quand même une transformation. Et que donc, cette transformation, elle est propre à l'art, à la pratique théâtrale. Hein. Donc je trouve que le système de transport, parce que même si nous avons, on a un livre comme ça, et après on a un espace. Et comment de ce petit livre et de l'expérience de lecture, on arrive à un espace avec lumière, acteur, etc. C'est beaucoup plus, c'est autre chose.
Alors vous avez parlé de premier temps et de deuxième temps. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ce premier temps?
D'abord la découverte du livre. Je suis tombée complètement par hasard sur ce livre et j'étais suffoquée, sidérée de découvrir la qualité de ce livre, de la densité, même un peu vexée parce que comme je lis beaucoup, c'est à la fois on est très content de découvrir un auteur qu'on ne connaît pas et qui est, et en même temps, c'est comment ça se fait que je le connais que maintenant. Et quand j'ai donc, ça fait 4-5 ans, ça doit être en 2011 ou 2012, à l'époque, j'enseignais encore à l'université avec des étudiants en théâtre, je me suis dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc voilà, découverte du livre. Ensuite, comment j'ai fonctionné? J'ai fait une contraction, ce que j'appelle une contraction, de 32 pages, des passages du livre qui me semblaient importants. Donc j'ai vraiment, véritablement contracté avec les mots de l'auteur. J'ai quasiment pas changé l'écriture de l'auteur. Et nous avons eu une semaine de travail et on a alterné avec les trois comédiennes sur des lectures et du travail de plateau et des improvisations. Et ensuite, je leur ai proposé aussi, elles, de faire leur propre montage, parce qu'il fallait évidemment réduire, couper. On ne peut pas garder un récit, le texte de théâtre, c'est un scénario, propose à l'action, au jeu, d'être déployé, etc. Et moi, c'est vrai que dans ce premier temps, j'étais dans mon expérience de lecture assez forte, non seulement la lecture du livre, et de l'homme. Et donc, ce sont aussi les comédiennes qui étaient sans complexe, qui coupaient, elles, facilement. Donc, ça m'a aidé à choisir des passages et en éliminer certains. Et ensuite, à chaque reprise, chaque période de répétition, parce que ça s'est fait en plusieurs temps, et chaque reprise de spectacle, on épure encore petit à petit. C'est la nécessité du plateau, du théâtre qui s'impose. Et l'expérience du lecteur, de la lectrice, moi en l'occurrence, disparaît. Et comme j'ai eu la chance d'avoir une traductrice qui voit le spectacle et un autre traducteur des autres livres de Lussu qui nous suit à Marseille et que donc il apprécie le travail.
Donc c'est pas un travail solitaire ou très
le travail solitaire, c'est le travail de choix de la contraction et le travail de reprise de l'écriture à chaque fois. Après, j'ai eu à me battre parce que bon, les actrices, d'abord j'ai choisi trois jeunes actrices, il fallait que j'explique. Les trois quarts des choses, elle les ignorait. Donc j'ai dû lutter parfois pied à pied, et parfois j'ai dû défendre, non, ça on le garde. Mais le travail de théâtre, à partir du moment où on répète, c'est un travail collectif, bien sûr.
La mattina del 5 di agosto, si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi, che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.
Gorizia était chantée par Sandra Mantovani. Écrite par un soldat anonyme, elle évoque la défaite de Gorizia qui causa la mort de 50 000 soldats et critique ouvertement les officiers. Il ne fallait surtout pas être surpris en train de la chanter sous peine d'être fusillé sur le champ.
Je voulais déjà vous parler du titre. En italien, c'est Un anno sull'altipiano. Les hommes contre, ça voulait dire quelque chose au moment d'un film italien qui a eu un grand succès en Italie. Il date de 1970, Uomini contro, de Francesco Rosi. Et donc, ce livre, ce titre-là disait encore quelque chose. Donc, ça pouvait faire davantage vendre qu'Une année sur l'altipiano. Mais je comprends fort bien, cela dit, que maintenant, le titre soit resté, en tout cas italien, pour la pièce de théâtre. C'est 1916-1917, ça c'est le centenaire. Mais le référent à l'époque, c'était effectivement le film de Rosi. Sinon, pour parler des difficultés, il y a eu des difficultés techniques, bien entendu, qu'on a fait un peu comme Zola avec mon étudiante, c'est-à-dire on est allé sur place, on est allé au musée de l'armée. En particulier, on ne comprenait pas très bien ce que c'était que les bombes à main. Alors on a eu un scrupule, hein, on est allé voir l'armement, c'est les bombes à fragmentation. Les grades, c'est miraculeux, mais les grades italiens et français correspondent. La nature elle-même, le mot dolina, qui est un mot serbo-croate, qui indique une cuvette circulaire, qui est typique de la région du Carso. Là encore, beaucoup de chance, on l'a laissé, le mot doline, qui est entré en France en 1895. Donc, doline va. Sinon, c'est une cuvette, si vous voulez. Alors, on a un petit regret pour la selletta, le petit col. Et quand je suis allée en Sardaigne, j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire, parce que c'était la forme d'une selle, de la selle d'un cheval. Il n'y a pas de régionalisme. Il n'y a pas de terme régionaliste. Pourtant, ils parlent, les soldats. Il n'y a pas de terme vulgaire. Et à un moment, on dit, et il l'a dans le nez. Nel naso. J'espérais qu'il mettait quelque chose d'un peu plus vigoureux. J'allais presque mettre autre chose de plus. Non, je me suis dit non, il faut garder dans le nez. Nous aurions passé à autre chose. Alors, un peu d'argot, qui sais-je, baffa, tout à bouffer. On a mis de la veine, du pot, au lieu de la. Mais il n'y a pas d'origine, il n'y a rien d'autre.
Nanou Broche, vous pourriez nous faire toucher du doigt ce que vous avez choisi.
J'ai choisi 3 thèmes principaux et peut-être un 4e qui a expliqué le choix du titre, une année sous l'altipiano et non pas les hommes contre. Parce que moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est les contradictions de Loussou. Puisque Loussou est un interventionniste démocrate et donc il choisit de faire la guerre. Et en même temps, il nous permet toujours, parce que je trouve qu'il écrit de façon assez brechtienne, mais il nous permet toujours de nous questionner et de comprendre les contradictions des décisions et des actions. Donc, cette chose-là qui m'a fait choisir ce texte, j'ai préféré pour ça garder le titre « Une année sur l'altipiano » plutôt que « Les hommes contre » qui me semblait déjà un petit peu manichéen puisqu'il est à la fois pour et contre. Et en plus, pour un public français, « Altipiano », ça sonne joliment, je trouve que ça fait italien, quoi, voilà. Donc ensuite, les thèmes, si vous voulez, que j'ai gardés essentiellement, la jeunesse, parce que bon, comme d'habitude, qui on envoie se massacrer sur les champs de bataille ? Des jeunes gens. Deuxièmement, la violence des combats et des rapports de classe. Ça m'a énormément intéressé parce que Loussou, sans arrêt, nous fait, il explique très bien, et c'est dialectisé presque dans les dialogues, ces 3 classes militaires font écho pour nous à presque 3 classes sociales, avec le haut commandement, l'état-major, et puis la masse des soldats, paysans, ouvriers, mineurs, sardes. Et au milieu, telle la classe moyenne à laquelle j'appartiens et dans laquelle beaucoup nous reconnaissons, ce qu'on appelle les officiers subalternes, à la classe à laquelle appartient Loussou et ses compagnons, c'est-à-dire lieutenants, capitaines, etc., ces jeunes gens qui ont fait l'université et qui se retrouvent en contradiction, en tension entre le haut commandement et la masse des soldats. Donc voilà, si vous voulez, les thèmes qui m'ont guidée. Ensuite, par rapport au texte que j'ai choisi, il y a donc les assauts, ce que j'appelle les assauts ou les récits épiques, qui correspondent donc à la violence de la guerre, l'assaut des Autrichiens, l'assaut trompette, l'assaut farina, l'épisode de la désertion de Maradzi. Ah oui, j'ai oublié un thème très très important. Mon 3e thème, oui. C'est la joie. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il y a, au milieu de cette horreur, au milieu de cette oppression, de cette soumission à la nécessité, comme on définit la tragédie grecque, des moments de joie et des moments de blague où ces jeunes gens, dès qu'ils ont un petit moment, ils en profitent pour jouer, pour se saouler évidemment, mais aussi pour faire des blagues, etc. Plus se rajoute l'humour de Loussou, qui nous décrit tout au long même les pires horreurs avec une distance ironique qui facilite l'analyse et le questionnement. Et si vous voulez, les passages que j'ai gardés sur la, que j'appelle en gros la joie, c'est cette espèce d'épisode burlesque où on voit le général sur un mulet qui est en train de tomber dans le précipice, les soldats qui regardent ça ravis parce qu'ils ont bien vu que le général, pour lui, ils étaient que de la chair à canon et qu'ils allaient les entraîner au casse-pipe, hein, complètement, qui le regardent en se disant « Ouf, on va se débarrasser du général », qu'il y a un soldat qui d'un coup se dit « Allez, héroïque, il va sauver le général », et ses camarades lui tombent dessus et le tabassent, etc. Et à ce moment-là, Loussou, qui est quand même un petit peu l'homme à providentiel, hein, il arrive et il dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et arrive Otto Lengi, le lieutenant, copain de Loussou, mais qui traite le soldat d'imbécile, qui dit qu'il fait la honte de sa section, etc., etc., et qui menace de tuer le général la prochaine fois parce que sinon ils ne vont pas s'en sortir. Donc voilà, si vous voulez, le deuxième stock de textes. Après, il y a tout ce que j'appelais les vacances d'été. Ils ont comme il reste plus que 200 vivants sur un bataillon de 1000, hein, il y a quand même 800 morts, ils ont quand même droit à quelques repos, et ils se retrouvent en plein été sur ce plateau magnifique. Alors il y en a qui se baladent nus, à poil, d'autres qui récitent, ils font des blagues, et ça, moi je l'ai gardé, ils lisent, donc Loussou lit, il lit Baudelaire, il lit l'Arioste,
Et donc, tout ce rapport-là, il y en a un autre qui parle de recettes de cuisine. D'un coup, il y a de la vie qui s'introduit. Il y a aussi des histoires d'amour, parce qu'au niveau sentimental, ils ont 12 ans d'âge. C'est-à-dire qu'ils vivent, ils ont des responsabilités extraordinaires. Ils vivent avec la mort tous les jours. Ils ont des hommes sous leurs ordres. Et sentimentalement, les ados de 15 ans d'aujourd'hui sont plus avancés qu'eux. Voilà. Et ça, je trouve que historiquement, c'est intéressant aussi. Ensuite, il y a aussi toute l'histoire où Tolinghi va voler des jambons dans le magasin de la division, etc. Donc j'ai gardé ces textes. Et les autres textes que j'ai gardés, ce sont les dialogues où on a peu changé, où justement les rapports de classe, la dialectique des rapports de classe sont, à mon avis, très clairs. Dialogue entre le général Léon et Loussou, dialogue entre les deux majors qui parlent des colonies, justement, avec Abbat, je l'ai lu, les dialogues de la fin où les jeunes officiers subalternes parlent de, comme une AG presque, hein, sur faut-il faire la guerre ou faut-il faire la révolution, la mort d'Avellini, etc. Donc j'ai gardé ces dialogues-là, et traversant tous ces épisodes, il y a ce que j'appelle ces passages de réflexion-action, où effectivement, de façon souvent ironique, avec beaucoup d'humour noir, à chaque action, Loussou accroche un petit moment de réflexion. Donc voilà, si vous voulez, en termes de sens, de contenu, ce que j'ai gardé.
Emmanuel Genevois, Loussou, l'écrivain, vous en avez parlé brièvement. Est-ce que vous pouvez revenir sur son style? Parce que son bouquin, il y a plein de choses. Il y a des moments très statiques, il y a des moments où la nature est très 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 présente. Il y a beaucoup de dialogues, vous l'avez souligné, Nanou. Et il y a des moments, on a l'impression que ce sont des morceaux de roman.
Alors, je pense, par exemple, pour quelle raison est-ce qu'il met l'accent sur la consommation d'alcool, par exemple. L'alcool, il en parle de façon récurrente, hein, le terme revient sans arrêt. C'est pour oublier, comme il dit, les scélératesses. Pourquoi les scélératesses? Les scélératesses, parce que l'extrait rapide que sur le fait que les Autrichiens, on ne les voit pas en face, qu'on ne sait pas. C'est une guerre en montagne. On perd ses repères. On ne sait pas où on est. Les Italiens étaient fort peu préparés pour cette guerre. Et en particulier, ils avaient une artillerie, ils avaient très peu d'artillerie. Ce qui s'est passé, comme en France d'ailleurs, ils ont lancé au casse-pipe les soldats, la chair humaine. Et l'alcool, c'était surtout pour occulter la réalité, pour occulter les scélératesses de la réalité. On recherchait un abrutissement. C'est une série d'initiatives vraiment absurdes prises par les gradés. Et je voudrais pouvoir, justement, pour vous donner un exemple de sa langue, lire un passage qui montre bien à quel point, si vous voulez, la vie humaine était tenue en peu de compte par le haut commandement. Il s'agit d'un général qui, d'ailleurs, dans le film, est joué par l'extraordinaire Alain Cuny. Le général invite un soldat. Les tranchées sont très proches. Il y a une sorte de promiscuité terrible entre les tranchées italiennes et les tranchées autrichiennes, 200-250 mètres. Et le général fanfaronne et monte sur une petite éminence pour défier l'ennemi. L'ennemi ne tire pas dessus. Alors, il invite un soldat à le faire. « Si tu n'as pas peur, dit-il en s'adressant au caporal, fais comme ton général. »« Oui, mon général, répondit le caporal. » Et posant son fusil contre la tranchée, il grimpa sur le tas de cailloux. Instinctivement, je pris le caporal par le bras et l'obligeai à redescendre. « Les Autrichiens sont avertis maintenant, dis-je, et ils ne rateront pas leur coup. » D'un regard terrible, le général me rappela la distance hiérarchique qui me séparait de lui. Je lâchai le bras du caporal et ne dis plus un mot. « Mais ce n'est rien, dit le caporal, et il remonta sur les cailloux. Il s'était à peine montré qu'une salve l'accueillit. Alerté par l'apparition précédente, les Autrichiens attendaient, fusils pointés. Le caporal ne fut pas touché. Impassible, les bras appuyés sur le parapet, la poitrine découverte, il continuait à regarder droit devant lui. « Bravo !» cria le général, « tu peux descendre à présent !» De la tranchée ennemie, un coup isolé partit. Le caporal se renversa en arrière et tomba sur nous. Je me penchai sur lui. La balle l'avait atteint au sommet de la poitrine, sous la clavicule, et elle l'avait traversé de part en part. Le sang lui sortait de la bouche. Les yeux mi-clos, le souffle court, il murmurait. « Ce n'est rien, mon lieutenant. » Le général aussi se pencha. Les soldats le regardaient avec haine. « C'est un héros !» commenta le général. « Un véritable héros !» il donne une lire d'argent sur le cadavre du caporal que aucun des soldats ne ramasse. Vous voyez, c'est ce type de scélératesse tout de même, entre autres, qui fait qu'ils s'abrutissent avec de l'alcool. Alors, on note en fait qu'il n'y a pas de différence de langage entre l'intervention de Luce ou ce que dit le caporal. Il y a une espèce de maîtrise permanente, mm-hmm. si vous voulez, de la chose de Luce. C'est pourquoi il m'est difficile de distinguer des diversités, des niveaux de langage différents, disons, hein, des noms de langage différents. Pour ce qui est de la joie du comique, alors il y a énormément de comiques, des comiques de situation, la situation que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire au moment, situation à la Molière, c'est-à-dire au lieu de féliciter le soldat, d'avoir sauvé le général, on le réprimande. Il y a un grand nombre de scènes comiques, celle par exemple où ce général qui est haï, vous imaginez avec une scène pareille, c'est un général aussi qui à un certain moment envoie vers les barbelés avec des pinces, dit l'italien, on l'a traduit les cisailles, pour couper les barbelés en plein jour, alors que les cisailles sont rouillées. Et il envoie un très vieux lieutenant, oui, que les soldats aiment beaucoup. Et il l'envoie, et le lieutenant arrive avec son estafette, et le jour s'est levé, c'est même pas pendant la nuit. Et naturellement, il est tué. Il est... Donc là, il y a une haine véritable contre le général. Et donc, à un moment, le bruit court qu'il est mort. Il est mort. Et alors, je ne peux pas ne pas résister à la tirade. Le général, on dit que le général est mort. Alors là, les soldats se réunissent, un verre à la main, ils boivent là. Messieurs les officiers, qu'il soit permis à un représentant du ministère de l'Instruction publique et un capitaine vétéran de lever son verre à la bonne fortune de notre armée, imitant les belles traditions de certains peuples forts, où les parents célèbrent la mort d'un des leurs par les banquets et des danses, et ne pouvant faire mieux, buvons à la mémoire de notre général. Point de larmes, messieurs, mais une joie dignement contenue. La main de Dieu est descendue sur le plateau d'Asiago. Sans vouloir critiquer le retard avec lequel la Providence met en œuvre sa volonté, force nous est cependant d'affirmer qu'il était temps. Il est parti. La paix soit avec lui. La paix pour lui et la joie pour nous. Et qu'il nous soit enfin permis de respecter mort un général que nous détestions vivant. Et nous levions tous nos verres quand sur le sentier muletier qui venait de Croce, de Sant'Antonio parmi les sapins, un officier parut sur sa monture. J'étais en face du sentier, c'est moi qui le vis le premier, se dirigeait vers nous, je m'écriais, mais c'est impossible, nous regardâmes tous, c'était le général Leone. D'ailleurs, ils arrivent à transformer le toast, nous buvons aux médailles reçues par le régiment, etc. Donc il sait faire quelque chose de comique, mais vous voyez comme son langage, le niveau de langage est différent. C'est un langage de quelqu'un de cultivé, hein, qui fait appel à une culture ancienne, un gradé, qui est capable de parler de façon très distinguée.
Nanouk Broch, si vous permettez, je vais vous demander de revenir sur le deuxième temps de votre travail.
D'abord, pour bien comprendre le propos du spectacle, c'est qu'il est joué par trois jeunes femmes, trois jeunes actrices. Et le sens de ça, c'était effectivement le rapport à la mémoire. C'est-à-dire ces jeunes femmes, elles ont des corps de jeunes femmes d'aujourd'hui, bien sûr, elles sont habillées comme quasiment on l'est. C'est-à-dire le rapport d'aujourd'hui à cette histoire d'il y a 100 ans, pour moi, il est immédiat, pour le spectateur et pour elles. Donc si vous voulez, ça, je crois que c'est important de le dire, parce que ça explique aussi des choix dans les textes eux-mêmes. Ensuite, les trois actrices, parce que ce qui est important au théâtre, par rapport à un texte qui est un récit, même s'il y a parfois des dialogues, c'est la distribution en voix. Les trois actrices jouent Luce, c'est-à-dire qu'elles racontent ou mettent en scène Luce, c'est-à-dire les contradictions de Luce sont étalées, développées, par le fait que ce soit, pour moi le théâtre c'est aussi ça, c'est-à-dire ça sert aussi à montrer que l'identité une et homogène ça n'existe pas, que nous sommes multiples. Donc ça du coup, si vous voulez, je crois que c'est important. Et chacune ensuite, il y a des prises de rôle, des prises de personnages. Par exemple, il y en a une qui va jouer Léone, une qui va jouer Ottolenghi, une qui va jouer Abati, etc. Et puis il y a cette position, il y a au moins trois positions de jeu, que j'appelle la position de la conteuse ou de la récitante, qui explique que nous avons choisi des textes qui sont des récits, que j'ai bien sûr épurés simplifiée par rapport à l'écriture de Loussou, et que nous avons choisi aussi des dialogues. Moi, je suis très influencée, bien sûr, par la tragédie grecque. La tragédie grecque, c'est une alternance de chœurs, de récits, et puis de dialogues, d'épisodes. Je travaille beaucoup sur un auteur contemporain allemand qui fait ce passage sans arrêt. On raconte et puis on joue. Voilà pourquoi j'ai gardé aussi des passages qui sont écrits au style indirect, mais que j'ai énormément simplifié, parfois en supprimant la subordination, les après que, avant que, etc. Parce que ça, ce n'est pas possible. J'ai souvent fait des phrases, sujet, verbe, complément, etc. Donc voilà un peu, si vous voulez, le par rapport à la langue elle-même, ce que nous avons fait. C'est-à-dire, c'est du creux, l'écriture théâtrale, c'est du trou. On dit que c'est une écriture plus trouée que les autres. Donc il faut trouer, élaguer, pour que les acteurs puissent se jouer. Et les acteurs, c'est du plein.
Ce que vous êtes en train de dire, ça implique apparemment l'intervention des comédiennes. Vous n'êtes pas toute seule quand vous faites ce que vous êtes en train de nous dire.
Ah ben c'est-à-dire que ça fait, c'est un aller-retour entre proposition,
oui,
action.
Voilà.
Hein. Et puis après, je voulais expliquer, par exemple, des fois, elles veulent tout couper, parce que, voilà. On a fait aussi des petites transformations. Alors, je vous explique, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le rapport à la mémoire. C'est une histoire qui a 100 ans. Et l'écriture, elle a 100 ans. Elle est classique. Et moi, je voulais qu'on entende ça. C'est-à-dire, ces jeunes femmes, elles manipulent une langue classique, avec des passés simples. C'est pas même l'édition de minuit de contemporain, quoi. C'est la langue classique. Et ça, je voulais qu'on l'entende. Donc, cette chose-là, on le fait. Alors, c'est vrai que parfois, elles m'ont dit, « Ah, le passé simple !» Non, tu le gardes, le passé simple. Et parfois, on a gardé des phrases comme ça qui émergent, un petit peu comme qu'il faut qu'elles traitent, justement, comme une matière de jeu, genre, après que nous eûmes ramassé les morts et les blessés, ce que les Autrichiens nous laissèrent faire sans tirer un seul coup, je m'allongeais, je tentais de dormir. Ça, on en a gardé deux ou trois comme ça, qui émergent, mais c'est à traiter dans le jeu. Ensuite, si vous voulez, j'ai parfois changé, parce que la tension, c'était que le spectateur et que nous, nous entendions une langue et une histoire qui n'est pas contemporaine. Donc forcément, la langue de départ devait être datée, et elle l'est un petit peu, bien que très classique et très bien écrite. Et d'autre part, je voulais aussi en faire entendre que dans ce texte, on dit des choses qui résonnent maintenant. D'autant plus depuis que nous l'avons repris en septembre avec la guerre de Syrie et tout ce traficotage international autour, d'autant plus depuis le 13 novembre. Et donc, moi, pour que ça résonne un petit peu plus, j'ai parfois changé des mots. Par exemple, dans le fameux dialogue, il y a une opposition sur « faut-il faire la guerre ou faut-il faire la révolution ?» Et il y a un moment, il y a une réplique qui dit « une poignée de brigands nous aurait toujours à leur merci ». Brigands, pour moi, ça ne clash plus. Voilà, ça n'accroche plus. C'est ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que l'argot, si vous voulez, vieillit plus vite. Donc j'ai mis salopard. Quand on dit salopard, maintenant c'est bon, on comprend. Il me semble que c'est clair. Donc j'ai fait des tout petits changements comme ça, mais de garder cette tension entre une langue et une histoire qui sont datées et des actrices qui sont d'aujourd'hui. Parce que c'est mon rapport, c'est le rapport que nous avons. La mémoire, c'est du présent par rapport au passé. Et cette guerre, elle résonne. Notamment, j'ai gardé tous les passages. Tout le rapport aux colonies, hein, c'est ça qui se joue, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Tous les pays européens s'affrontent aussi par rapport aux affrontements qu'ils ont sur les territoires d'outre-mer, etc. Voilà, donc ça, je l'ai gardé.
Au point que ça m'a donné même un regret d'avoir utilisé beaucoup le « nous » en français, alors qu'il faudrait utiliser le « on ». Nous, on dit beaucoup plus « on » que « nous ». Alors, il y a une phrase que vous avez gardée parce qu'elle était trop drôle. Mmh. À un moment, les soldats disent « Ne sommes-nous pas des fils de pute ?»
On l'a gardée comme ça, on l'a gardée, belle.
Parce que ça, c'était presque encadré. Hein, comme en langage parlé, on est tous des fils de pute, on dirait en français maintenant. Le « on », je me suis dit qu'à bien y penser maintenant, je mettrais davantage la forme indéfinie plutôt que le pronom « noi ». J'ai été un peu fidèle, un peu universitaire, à quelque chose qui est très écrit. Elle a raison, c'est quand même quelque chose qui est très écrit. Hein.
Mais elles ont le loisir de mettre « on » ou « nous » dans certains dialogues.
Est-ce que je peux dire quelque chose d'important pour, disons, qui n'a pas trait à la langue ? Quand même pour dire malgré tout qu'il a lieu un événement qui est rarissime, tout de même. en guerre. C'est-à-dire un événement, eh bien, vous allez le découvrir à travers la petite page que je vais vous lire. À un moment, il y a un soupçon de mutinerie. Mais telle qu'elle est comprise par un des majors, eh bien, selon lui, elle doit provoquer une décimation. C'est-à-dire il faut tuer, exécuter. Et voici que donc sont alignées les personnes. Et voici ce qui se passe. « Faites tirer !» cria le major. « Feu !» ordonna le lieutenant. La section exécuta l'ordre, mais elle tira en l'air. La salve était passée si haut, bien au-dessus des têtes des condamnés, que ceux-ci restèrent à leur place impassibles. S'ils s'étaient mis d'accord avec la section, les condamnés auraient pu tomber par terre et feindre d'être morts. Mais il n'y avait eu entre eux qu'un échange de regards. Après la salve, l'un des condamnés sourit. La colère du major explosa irrémédiablement. Le pistolet à la main, il fit quelques pas vers les condamnés, le visage décomposé. Il s'arrêta au milieu et cria « Eh bien, je punis moi-même les rebelles !» Il eut le temps de tirer 3 coups. Au premier, un soldat touché à la tête s'effondra. Les deuxième et troisième coups frappèrent 2 autres soldats en pleine poitrine. Le capitaine Furel avait sorti son pistolet. « Mon commandement, vous êtes fou !» Le peloton d'exécution, sans un ordre, mit le major en joue et fit feu. Le major s'écroula, criblé de balles. Autrement dit, il y a le retournement de l'arme contre lui. C'est-à-dire, vous avez là vraiment un fait rarissime et relaté donc par Lousseau. Fait rarissime, il est très difficile. À l'époque, c'était tout de même la censure. Donc, on ne sait pas combien de... Mais c'était, disons, juste avant Caporetto, avant la grande débâcle de Caporetto, à un moment vraiment chaotique de décomposition terrible de l'armée, et ce genre d'acte a dû avoir lieu. Donc vous voyez que le titre « Les hommes contre » a véritablement un sens. Et les hommes contre, ce sont les soldats aussi, les soldats eux-mêmes, en dépit, si vous voulez, de l'obéissance qu'ils doivent au gradé. Et ils retournent effectivement les hommes contre un ordre qu'ils estiment être tout à fait injuste.
Facciamo un altro canto contro la guerra, che si chiama Fuoco e mitragliatrice, è stato raccolto da una persona a cui abbiamo voluto bene, una persona che è scomparsa qualche mese fa, si chiamava Roberto Leidi, ed ha raccolto questo canto ad Alfonsina, in provincia di Ravenna. Fuoco e mitragliatrice.
Parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra quanti fratelli son morti di già trincea dei razzi maledizione quanti fratelli son morti lassù finirà dunque sta flagellazione di questa guerra non se ne parli più. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Da Montenero a Monte Cappuccio fino all'altura di Doberdò un reggimento più volte distrutto al fine indietro nessuno tornò. Non ne parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra quanti fratelli son morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Thank you.
Grazie.
Au fil des arts, Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre Fuoco e Mitragliatrici, qui était interprété par le groupe Baraban, connu pour sa reprise de chansons antimilitaristes. Cette chanson dénonce la violence de la Première Guerre mondiale. Elle a été récoltée par Roberto Leidi à Alfonsine et dans la région de Ravenne.
Combien de temps vous a pris la traduction de ce livre avec votre étudiante ?
Mais écoutez, j'avais sous le coude d'autres livres. Et donc j'ai dû alterner. Oh, ça a dû bien prendre une année, moi, je dirais.
Une année de travail.
Et parce que j'avais parallèlement un travail universitaire aussi.
Et vous, Nanouk, à partir de la lecture du récit, la pièce de théâtre, elle voit le jour combien de temps après ?
C'est-à-dire que c'est toujours... Là, il y a des problèmes économiques qui entrent en jeu. Et comme, effectivement, il y a un système qui est quand même intéressant... Quand on ne peut pas payer sur de longues semaines de répétition, moi, ce que j'aime bien, c'est intercaler du temps. Sur la durée, le travail mature, que ce soit pour moi ou pour les comédiennes. Donc, nous avons fait, si vous voulez, cette espèce d'aller-retour entre la première proposition de la contraction et la première adaptation. Ça a pris une semaine. Ensuite, il y a eu, en période un petit peu séparée, 4 semaines de répétition. Et la première a eu lieu en mars l'année dernière. Et là, lorsque chaque fois que vous reprenez un spectacle, en général, il faut entre 5 et 6 jours de reprise. Donc ça fait quand même 4-5 semaines de travail. Plus aussi, parfois, on se voyait pour préparer le travail. On faisait une journée où on faisait des lectures, des retours.
Entre autres, il y a un passage qui m'a particulièrement frappée, qui est magnifiquement mis en scène. Magnifiquement, magnifiquement éclairé. Je dois dire que la lumière, là, est sensationnelle. C'est un passage très étonnant, véritablement, où Lousse se met en scène dans une situation hamlétienne, c'est-à-dire un monologue intérieur. Il se trouve face à un Autrichien, un jeune officier autrichien, blond, qui prend son café, qui fume une cigarette. Il pourrait tirer sur lui. C'est un monologue très long et donc je ne peux pas le lire, mais dans le spectacle, il est magnifiquement rendu parce que, justement, il hésite. Très longues hésitations. Pourquoi ? Parce que la guerre, il l'a voulu. Parce qu'il est responsable des soldats qui la font. Que faire ? C'est un vrai dilemme pour lui. Mais ce qui finit par dominer, c'est l'idée qu'il y a un homme devant lui. Il y a un homme. C'est pas facile, si vous voulez. C'est pourquoi il y a de grandes hésitations. Comment faire ? Alors qu'il y a vraiment le poids, si vous voulez, tout de même, de la responsabilité. Comment faire ? Et ça a été analysé très très bien par Alan Finkielkraut dans un livre qui s'appelle « L'humanité perdue ». Et c'est véritablement ce passage-là qui l'a frappé et dont il tient compte dans deux ou trois pages de son livre. De même, le professeur Antoine Compagnon, dans son anthologie « La grande guerre des écrivains », ça m'a fait très plaisir de voir ça. J'ouvre le livre et je vois qu'il y a deux occurrences de « Les hommes contre » de Lousseau. Autrement dit, c'est un grand livre. C'est vraiment un grand livre, un livre très fort. Et je suis très heureuse qu'il ait pu retenir l'attention du théâtre, vraiment, parce que ça va le diffuser davantage.
Juste sur ce passage, une minute, parce que ce qui est très intéressant, c'est que Lousseau, écrivant donc en 1937, remet en question son raisonnement d'alors. Et il remet en question un humanisme que j'appellerais entre guillemets primaire, comme quoi ce ne serait pas un assassinat d'envoyer des centaines d'hommes se battre contre des centaines d'hommes et de tuer un homme. Il dit, il a des phrases très intéressantes, mais je ne sais pas si je raisonnais de façon logique. Je ne serais pas en mesure maintenant de réexaminer ce processus psychologique. C'est-à-dire, il remet en question cette chose-là. Et si je peux terminer là-dessus, pour moi, maintenant, c'est très important, parce que si je pense que nous en sommes, en termes de civilisation, au début, il me semble, ça ne fait que 200 ans après tout que la philosophie de l'égalité et de l'humanisme existe, l'espèce, ça met beaucoup de temps pour se transformer, et je crois que d'arriver justement à comprendre que des quantités de gens qui meurent, qu'on envoie se massacrer, et arriver à s'identifier à ça, nous n'y arrivons pas. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec les migrants, des milliers de migrants meurent, il y a un petit enfant, etc., tout le monde réagit. Lorsque nous serons peut-être capables de nous identifier à la quantité, Je pense qu'il y aura un progrès. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Mais en tout cas, c'est à partir de ça aussi que je trouve que le questionnement de Loussou sur sa réaction de jeune soldat me semble intéressant. Je peux juste terminer. Pourquoi je suis ici aujourd'hui, pourquoi nous sommes ici, c'est à cause de ça. C'est lorsque je faisais, donc je travaillais sur ce livre, je ne connaissais rien à la Première Guerre mondiale en Italie. Je tapote sur Internet et je tombe sur cette conférence. L'INIS, la librairie Majolire et Jean Guichard qui fait une conférence et j'ai beaucoup appris. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis, mais tiens, je vais entrer en contact avec ces gens-là qui m'ont l'air de faire du bon travail.
Nous allons terminer avec Quel Mazzolino di Fiori, une chanson populaire d'origine inconnue, probablement composée dans les Alpes, qui fut reprise par les soldats dans les tranchées. Une façon pour eux, à travers cette histoire d'amour déçu, de dire leur souffrance.
Quel Mazzolino di Fiori, che vien da la
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.